When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais.
Ça swing.
Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans Sors le Popcorn.
Bonjour Alix Martino.
Bonjour Mimi.
Nous sommes donc deux cette fois-ci pour ce deuxième épisode de Sors le Popcorn. Pour rappel, Sors le Popcorn, c'est le nouveau podcast de Mademoiselle qui parle de cinéma et de séries télé. Donc, la fréquence. Un mercredi sur deux, on te parlera cinéma en te causant du film de la semaine, avec une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Et le dernier vendredi du mois, il y aura un épisode comme celui-ci, où on va parler de séries télé. Car voilà, c'est une passion, on peut le dire.
Une grande passion. Et du coup, c'est le premier épisode de série télé.
Oui, tout à fait. Oh là là, je suis contente. Trop contente. Je suis si contente que ce podcast existe. C'est trop bien.
Moi aussi.
Donc, pour rappel, dans le premier épisode de Sors le Popcorn, c'était un épisode ciné et on t'a parlé de Joker avec Alix toujours et Fabrice Florent. Et aujourd'hui, on va parler de série télé et donc de The Good Place, comme tu l'as vu dans le titre de cet épisode. Sauf si tu vas à l'aveugle en mode oui, je clique, je ne veux pas savoir, je clique. Spoiler, c'est The Good Place. Voilà. Je voudrais juste remercier les gens qui m'ont envoyé des retours après l'épisode 1, puisque j'avais dit, et c'est toujours d'actualité, que vous pouvez m'envoyer vos retours à mimi@mademoiselle.com, car c'est un nouveau format, on improvise, on tente des trucs. Donc si vous avez des idées, des critiques, des remarques bienveillantes, bien sûr, mais tous les gens sont bienveillants généralement, envoyez-les-moi par mail, et j'en ai déjà reçu après l'épisode 1, et c'était trop chou, je les ai partagés avec tout le monde, j'étais là, regardez, c'est trop bien, les gens ils disent que c'est bien, donc je suis trop contente.
Moi aussi j'en ai reçu plein, tout le monde a dit que c'était vraiment très très cool. Y en avait beaucoup qui avaient peur, comme c'était décalé à cause de LMK, enfin que LMK était décalé à cause de cette émission.
Du coup, avant LMK sortait le mercredi, mais comme c'est sur le popcorn, bah on le sort le mercredi qui est le jour du cinéma.
Voilà.
Et du coup, LMK a été décalé au jeudi.
Mais bon, tout le monde a trouvé ça plutôt très cool, donc bah écoute, continuons sur cette lancée, Mimi.
Merci les LM Crado et les autres qui peut-être découvrent Sors le Popcorn. Peut-être c'est votre premier podcast, mademoiselle.
Peut-être.
Allez écouter les autres, ils sont cool aussi. Mais restez d'abord parce que c'est le premier épisode série de Sors le Popcorn. Et donc, comme pour les épisodes ciné, on va commencer par causer de ce qu'on regarde en ce moment pour vous faire des petites recos. Tu veux commencer, Alix ?
Ouais. Allez. Bon, alors, c'est pas vraiment une série que je regarde en ce moment, mais c'est une série qui m'a vachement marquée cette année. Donc, je vais parler de Dark, dont la saison 2 est sortie cette année. Et donc, j'en avais fait un article sur Mademoiselle, parce que c'était une saison que j'attendais beaucoup. Et Dark, donc, c'est une série allemande. Et c'est marrant parce que je dirais qu'elle est, attention, entre Stranger Things et Tchernobyl. Voilà.
Bah, deux séries très similaires.
Non, mais voilà, il y a ce côté un peu Stranger Things où il se passe des choses fantastiques avec des allers-retours. Enfin, je veux pas trop vous spoiler, mais bon, c'est voilà, il y a un côté très fantastique.
Il y a des parties qui se passent dans les années 80.
Exactement.
Et il y a du fantastique.
Il y a du fantastique. C'est voilà, années 80, mais sauf Allemagne, c'est un peu moins chou que l'Amérique.
Bah, la guerre froide, hein, finalement. On en parle pas assez souvent dans les podcasts de Mademoiselle.
Donc voilà, et puis il y a ce côté bande de jeunes aussi, même s'ils sont pas vraiment potes, et c'est peut-être un peu le truc un peu moins bien à propos de cette série, c'est que en fait t'as un peu du mal à t'attacher au personnage parce que bah déjà bon il parle allemand, donc il faut avoir, si tu parles pas allemand comme moi, il faut avoir les yeux rivés sur les sous-titres et tu peux pas t'en aller faire la vaisselle en attendant puis revenir, voilà, faut vraiment être super concentré.
Alors je vous rassure, si vous avez fait 8 ans d'allemand comme moi, il faut quand même regarder les sous-titres. Je n'ai rien retenu de mes cours d'allemand, je vais dire hallo, ich bin ein Kartoffel, ça ne mène à rien, voilà.
Mais du coup voilà, et donc voilà, les personnages sont un peu dark en fait finalement.
Oh. C'est devenu illégal. On peut dire que c'est une série un peu dark. Je t'imagine mettre des lunettes de soleil comme le gars des experts.
Voilà, vous l'aurez compris, c'est un peu dark. Et du coup, voilà, c'est un problème peut-être d'attache au personnage. Enfin, c'est surtout ce qui a été remonté dans mes connaissances à qui je l'ai conseillé. Moi, ça a été, enfin, j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau des personnages. Et après, oui, c'est assez complexe et tout. Faut aimer les intrigues un peu à la Leftovers où tu comprends pas trop tout dès le début et tout. Et donc, je parlais de Tchernobyl parce qu'il y a tout un côté aussi centrale nucléaire, voilà. tout ça. tout simplement pour ça. Moi, les présences centrales nucléaires, ça m'angoisse, ça me fait penser à Tchernobyl. Donc voilà. Non, mais il y a un défaut dans la centrale nucléaire qui est un peu au centre du truc. Enfin voilà. Donc voilà, je vous encourage à regarder cette série en allemand et ça fait toujours du bien aussi de varier un peu les langues dans les séries. Moi, j'aime beaucoup.
Carrément. Et donc c'est sur Netflix.
C'est sur Netflix.
Je crois que c'est peut-être la première production originale Netflix Allemagne.
Possible.
Nous, on avait eu Marseille, voilà.
Voilà, chacun
son bail. Ce n'est pas le même
pays,
ce n'est pas la même culture, finalement. Juste pour rebondir, moi, j'ai vu la saison 1 de Dark. J'ai pas encore regardé la saison 2. J'ai envie de la regarder, mais comme tu dis, Dark, c'est très complexe. Mm. Et en fait, je sais qu'il faut que je sois en forme, concentrée. Ouais, c'est ça. Et c'est là où, pour moi, c'est très différent de Stranger Things, c'est qu'il n'y a pas du tout le côté pulp. En fait, oui, ça se rapproche parce qu'il y a des ados un peu lycéens et des passages dans les années 80 et du fantastique. Mais c'est pas le même ton, quoi. Stranger Things,
oui, c'est
fun, ça fait du
vélo.
C'est
pour ça que c'est mélangé avec Tchernobyl, tu vois,
oui,
clairement.
On change de ton. Et bah, en fait, moi, ça m'a un peu lassé le côté pulp de Stranger Things, qui, pour le coup, bloquait un peu mon rapport aux personnages, parce que ça devenait... Bah, c'est, pour moi, je les vois plus comme des personnages que comme des personnes, tu vois. J'ai du mal à croire à tous ces gens hyper bien sapés dans les années 80, qui font du BMI, enfin du vélo, et qui sont... Enfin,
oui,
c'est un peu trop cliché, tu vois.
Tu sens que c'est des références faites pour faire des références, donc en fait...
Oui, c'est les années 80 vues par les gens qui sont nostalgiques des années 80, ce que moi je n'ai pas vécu, donc de base j'ai un problème de rattachement émotionnel évident. Et alors que Dark, bah, comme c'est dans un pays qu'on connaît moins, en tout cas dans la pop culture, une époque qu'on connaît moins, il y a plus... Et en fait, peut-être le fait aussi que ce soit un pays européen, ça m'a plus rappelé... Ça devait être ça, la vie de mes parents dans les années 80 ou dans d'autres périodes.
Ouais, exactement.
Vois. Et du coup, il y a plein de. Il y a une bonne partie de la série qui se passe de nos jours. Et en fait, on dirait des vrais ados de nos jours. Ils n'ont pas des gueules. Enfin, ils ne sont pas comme taillés comme dans Riverdale. Tu vois. Ils ne sont pas tous ultra bien sapés. Ils y passent leur vie en ciré parce qu'il pleut en Allemagne. Voilà.
C'est ouais, c'est ça. Et même, en fait, c'est vraiment un truc que je me suis dit en voyant les meufs de... enfin, des années 80. Du coup, je me suis dit. Ma mère aurait pu avoir cette tête-là, mais vraiment, tu vois. Et enfin, du coup, mes parents ont vraiment vécu dans les années 80. Du coup, ça, c'est marrant que tu dis ça, mais oui, c'est plus réaliste en fait que Stranger Things. C'est moins loin de nous, quoi, je trouve.
Mmh. Mais c'est très cool. Juste, voilà, allumez votre cerveau et lisez bien les sous-titres. Sauf si vous êtes bilingue en allemand, comme moi, bien sûr. Moi, Marocco, c'est aussi une série dont j'ai parlé en article sur Mademoiselle, mais jamais dans un podcast. Et donc, c'est une série qui n'a qu'une saison pour l'instant. Et je me suis rebouffée la saison ce week-end, donc c'est très frais dans ma tête. C'est The Boys, une création originale Amazon Prime, qui est la seule série de super-héros que j'aime bien. Puisque les séries Marvel ne me parlaient pas, je les trouvais un peu trop... En fait, c'était des séries un peu classiques, mais avec des super-héros dedans. Genre, ça faisait un peu série criminelle, série d'espionnage, mais un peu genre ce qu'on voyait dans les années 2000, je trouve, ou les gros trucs genre NCIS, mais juste à un ou deux persos qui ont des pouvoirs. Et comme moi, l'univers étendu Marvel, où voilà, Daredevil, il va croiser machin et tout, j'ai jamais réussi à trop m'impliquer là-dedans. Pourtant, d'habitude, c'est ma cam, hein. Tout ce qui est les références
ben
et
oui.
tout, je suis là, ah, j'ai les bails. Mais j'étais pas assez accrochée par les séries Marvel, donc j'en ai essayé quelques-unes et ça m'a jamais convaincue. Et j'avais essayé Umbrella Academy sur Netflix, qui est aussi une série avec des genres de gosses qui ont des super pouvoirs un peu à la X-Men. Et bah, ça m'avait saoulée. Je l'ai pas fini parce que je pense que 80% des ressorts dramatiques viennent du fait que les personnages ne se parlent pas pour aucune raison. Ils savent des trucs et ils se le disent pas. Et vraiment, au bout d'un moment, ça m'a fatiguée, même si esthétiquement c'était beau, les acteurs sont top, il y a Ellen Page et tout. Mais j'étais là, mais parlez-vous. Enfin, j'arrive pas à m'impliquer dans vos décisions. Parce qu'elles sont cons, vous êtes cons. Et du coup, vous n'êtes pas censé être cons, tu vois. C'est juste parce que les scénaristes ont besoin qu'il y ait un mystère et ça ne marchait pas, bref.
Et moi, je m'attendais aussi à ce que ce soit plus proche de Misfits. Enfin, du coup, j'ai eu un peu ce truc-là.
Oui, en plus, il y a un des acteurs de Misfits, Robert Sheehan, qui jouait Nathan. L'insupportable Nathan dans Misfits.
Je l'adore.
Qui, du coup, revient dans un rôle où il a des pouvoirs et tout, et qui est probablement mon personnage préféré de Umbrella Academy. Mais il n'a pas suffi à me faire tenir. Du coup, j'ai été me spoiler la fin en mode « Hein ?» Bon, j'ai pas raté grand-chose. Ça va. Mais bon, ça a plu aux gens, il y aura une saison 2 et tout. Et The Boys, du coup, j'avais un peu abandonné les séries de super-héros. Mais The Boys est aussi adapté d'un comics qui est très, très irrévérencieux. Et j'avais bien aimé le comics que j'avais entamé quand j'étais au lycée et que j'ai jamais fini. Et du coup, quand j'ai vu qu'il l'adaptait, j'étais là, ok, ça, à mon avis, ça peut me plaire parce que c'est très sombre. C'est plein d'humour noir. C'est beaucoup plus réaliste, entre guillemets, que Umbrella Academy, par exemple. Et c'est, du coup... Le pitch, c'est dans l'Amérique d'aujourd'hui, il y a des super-héros. Enfin, dans le monde, il y a des super-héros. Il y en a 200 à 300 en Amérique. Et ils sont quasiment tous représentés par une super-corporation qui s'appelle Vought, et qui est une multinationale qui, en fait, les embauche. Et c'est un peu leur agent, quoi. Ils vendent des films, ils vendent des jouets. Ils les louent à des villes en mode, OK, on vous loue tel super-héros pour un an. Comme ça, il va vous aider à nettoyer votre ville du crime. Ouais. Donc rien que ça, l'aspect hyper-capitaliste des super-héros, c'est un truc qui est passionnant. et qui est très cohérent, en fait. Genre, oui, s'il y avait des super-héros dans la vie, c'est pas pour ça qu'ils seraient bons en freelance, tu vois. Donc, en fait, ils auraient des... Mais un peu comme les youtubeurs, tu vois, il y aurait des studios et tout. Au début, ils commenceraient chacun en indépendant. Et à la fin, ils feraient des partenariats avec du jambon Herta pour, tu vois, pour défendre le jambon Herta avec leur pouvoir, quoi. Donc, rien que ça, j'ai trouvé ça malin. Et en fait, il y a dans... Donc, cette corporation, elle a quelques centaines de super-héros à ses ordres. Et elle a les Seven, qui sont un peu leurs Avengers. C'est clairement calqué sur plutôt sur l'univers DC. Mais en gros, du coup, c'est leur Justice League, qui sont sept super-héros avec différents pouvoirs. Et le chef, c'est Homelander. C'est le seul qui est 100% super-héros, dans le sens où il n'a pas de vie... civil, il a pas de vie parallèle. Il dit à un moment, ça fait très longtemps que j'ai abandonné l'idée d'avoir une vie personnelle, donc je suis juste Homelander. Et en gros, c'est Captain America, sa cape, c'est le drapeau américain. Il a les pouvoirs de Superman, donc il vole, il voit à travers les trucs, il a des yeux laser, enfin, et il est ultra puissant. Le mec est indestructible, mais ils le sont quasiment tous à différents niveaux. Et donc eux, c'est les superstars, c'est la crème de la crème. Et c'est un peu tous des enfoirés, très clairement, où ils ont une image, voilà, de super good guy, patriote et tout, mais en privé, genre, c'est pas des bonnes personnes du tout.
Ouais, non.
Et en fait, la série suit en parallèle la nouvelle arrivante dans les Seven, qui s'appelle Starlight, qui est une petite meuf blonde de l'Iowa, qui aime Jésus et qui veut sauver le monde avec ses pouvoirs lumineux, et qui va vite déchanter. Et les fameux The Boys, du coup, c'est un groupe qui essaye de faire la lumière sur les agissements des super-héros et de vote et de les dénoncer. Mais le problème, c'est que bah, c'est très, très dangereux parce que c'est un peu comme si tu voulais t'attaquer à Jeff Bezos et Amazon. Mais en plus de tout cet argent et de toute cette puissance, ils ont des super-pouvoirs. Enfin, ils ont des gens qui ont des super-pouvoirs. Donc, c'est chaud. Genre, ils ont une bombe atomique qui marche et qui a une cape. Donc, ça fait peur. Et du coup, personne veut les soutenir. Donc, ils agissent un peu undercover. Et le héros, on peut dire, de The Boys, c'est un mec qui... alors, c'est pas un spoiler, parce que ça arrive vraiment dans les 10 minutes du premier épisode, qui perd sa petite amie, qui est un dommage collatéral d'un des agissements d'un
d'ailleurs,
membre de Seven.
C'était violent, cette
c'est
scène.
Violent. Et du coup, bah, mais c'est un mec lambda, quoi. C'est même plutôt une vicose, en fait. Il se fait un peu chier dessus par la vie. Et du coup, est-ce qu'il va réussir à trouver le courage en lui de venger sa meuf et de... faire cette enfin de suivre ce groupe avec tous les dangers que ça représente. Voilà, c'est un peu ça le pitch. Et du coup, c'est alors c'est assez gore. Il y a vraiment pas mal de scènes pas gore pour le plaisir d'être gore comme a pu l'être Walking Dead, il y avait des moments où je trouvais que c'était un peu genre OK, le but c'est juste de me mettre mal en fait. Mais là, c'est un peu pour remettre de la réalité dans l'aspect super-héros. Genre bah Homelander, il a des yeux laser, quand il coupe des gens, ça fait pas genre chewing tout propre.
Mais non, du coup, c'est assez surprenant quand même pour un truc de super-héros où justement enfin tu vois, Batman, qui tue jamais personne. Enfin, même, il n'y a pas de sang dans les films de super-héros. Enfin, ou peu.
Bah là, il y en a beaucoup. Et justement, je trouve que c'est une bonne différence avec Marvel, où effectivement, il y a beaucoup de gens qui meurent dans les Marvel, des citoyens comme des super-héros, mais c'est toujours propre, quoi. C'est jamais des morts graphiques. Et là, en fait, ça te remet. En fait, ce serait terrifiant d'avoir un mec qui a des yeux laser dans la vie, parce que vraiment, quand il te coupe en deux, c'est pas une cautérisation, quoi. T'as des tripes partout, t'as de la cervelle. C'est dégueulasse. J'avais un peu oublié que c'était aussi gore. Donc, j'avais vu une fois, j'en avais fait un article sur Mad. Et ensuite, je l'ai revu ce week-end avec, avec un pote qui l'avait jamais vu. Et il y a vraiment des moments où j'étais là, oh, je suis désolée de t'avoir montré ça, genre, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est pas non plus du torture porn, c'est juste que bah, c'est des gens qui se battent et il y a des moments où les corps, tout ce qui est chair, voilà, est plutôt malmené. Et c'est bourré d'humour noir, du coup, notamment par le chef, entre guillemets, de The Boys, qui est un mec qui s'appelle Billy Butcher, qui est joué par Karl Urban, que j'aime beaucoup, qui, lui, c'est vraiment le bad boy de base, genre le loup solitaire, qui respecte rien ni personne et qui passe sa vie à faire des vannes nulles à chier et à emmerder tout le monde. Et du coup, en fait, mais même, cela dit, même les super-héros, ils ont aussi leur forme d'humour noir et tout. C'est très cynique, mais c'est vraiment très cool, c'est jouissif à regarder. C'est, pour moi, c'est la série la plus rock'n'roll de l'année, de loin. Et du coup, voilà, je l'ai regardé. Donc je vous la conseille, c'est dispo sur Amazon Prime, il y a toute la saison 1 qui fait 8 épisodes, donc c'est assez vite fait, et la saison 2 est confirmée, elle sort l'année prochaine, et j'y serai jour 1 pour The Boys, saison 2 sera trop bien.
Ouais.
Voilà pour nos recos culturels de la semaine.
Voilà, oui. De la semaine, bah du mois du coup.
De l'épisode.
Bon.
De sort le popcorn, tu connais. Écoute, on a été beaucoup plus disciplinés je trouve, peut-être parce qu'on est que deux, c'est moins peut-être. Brouillon déjà que l'épisode 1.
Ouais.
On y arrive. Ok, passons au sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. Donc, on voulait vous parler d'une série télé du moment. Mmh. Et on a réfléchi sur, ok, qu'est-ce qu'il y a comme série télé en ce moment qui un peu fédère les auditeurs et auditrices des podcasts Mademoiselle. Et on s'est dit, The Good Place.
Ben ouais.
Et oui.
Et ouais, parce que en fait, c'est donc The Good Place, c'est une série comique qui a des épisodes de 20 minutes. Et ce qui est assez marrant, c'est que y a un épisode qui sort toutes les semaines, comme les séries qui fédèrent énormément, genre Game of Thrones. Enfin voilà, c'est une des rares séries en fait qu'on attend encore. Quoi.
Où il y a encore des rendez-vous. Et je trouve que oui, c'est important de préciser que c'est une comédie parce que on est un peu en manque de séries comiques, ouais. Je trouve. Et alors, il y a Brooklyn Nine-Nine, dont on reparlera puisque c'est le même showrunner.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme série marrante ces temps-ci? J'avoue que depuis que Kimmy Schmidt s'est fini, je suis là.
Ouais.
On rigole pas trop, quoi. Alors, certes, The Boys, c'est de l'humour noir, mais c'est pas la série que tu mets pour passer un bon moment, voilà, avec ta coloc, t'as 25 minutes. Et du coup, ouais, The Good Place, c'est un format un peu à l'ancienne de l'époque où on regardait How I Met toutes les semaines. Parce que c'est une série de network, donc c'est une série d'une chaîne, c'est pas une création Netflix, donc y a pas de, y a pas toute la saison d'un coup. Il faut attendre. Et alors, c'est sur Netflix en France, ce qui est cool. Donc, toutes les semaines, t'as un nouvel épisode sur Netflix, mais y a un peu le côté, moi, j'ai un peu perdu l'habitude des séries, toutes les semaines, en tout cas des formats courts. Et du coup, il y a vraiment ce côté, genre, ça commence et c'est déjà fini.
Ouais.
Et c'est frustrant, c'est un peu genre manger une chips, tu vois.
Bah, c'est là, ça, surtout que ça dure vraiment 25 minutes. Et je sais que j'en parlais à Fab l'autre jour, où je regardais The Good Place un midi. Il me dit, ah, tu regardes? Je suis, bah, oui. Il me fait, ah, moi, j'attends que tout soit sorti pour binger, quoi.
Moi, je suis entre vous deux, j'attends deux ou trois épisodes. Et comme ça, je me fais une petite heure de The Good Place, genre le vendredi soir, ouais, seul chez moi, ah, tu vois, il pleut et
tellement
tout.
Bien.
Et du coup, ça me fait mon petit kiff parce que c'est, ouais, un épisode, je suis juste frustrée, quoi.
Ouais, c'est pas assez, vraiment.
Du coup, c'est comment tu t'es mise à... Est-ce que tu regardes The Good Place depuis le début?
Eh ben, écoute, pas du tout. Donc, bah, pour remettre un peu en situation, The Good Place, c'est donc l'histoire de Eleanor, parce que c'est qui est incarnée par Kristen Bell, et donc c'est vraiment le personnage principal de la série, parce que c'est par elle que ça commence. Et donc, en fait, elle est décédée. Voilà. Et le premier plan, on la voit arriver dans ce nouveau quartier, en fait, où on lui dit, bah voilà, tu es. C'est pas le paradis, mais ça s'appelle le bon endroit. Donc voilà, il y avait bien une vie après la mort. Tu as réussi, tu es au bon endroit. Et en fait, il va lui arriver.
Parce que t'as été une très bonne personne.
Parce que t'as été une très bonne personne. C'est un programme très sélectif et tout, machin. Et donc, elle commence à rencontrer des gens du quartier. Et en fait, elle se rend compte que, bah, elle est pas à sa place. Enfin, que c'est pas.
C'est une erreur administrative.
C'est une erreur administrative. Et donc, en fait, le quartier commence à se dézinguer un petit peu à cause de sa présence. Enfin, elle présume que c'est à cause de sa présence. Et donc, voilà, j'en dis pas plus, peut-être.
Oui, c'est le pitch de base. C'est une meuf qui arrive au paradis et qui sait qu'elle mérite pas d'être au paradis. Mais comme c'est pas une bonne personne, elle va quand même essayer de s'incruster en mode maintenant que je suis là, je vais pas dans l'autre.
C'est
truc.
Vraiment la pire meuf.
Je veux pas aller dans The Bad Place. Et l'autre personnage principal, c'est Michael, qui donc est l'architecte de ce quartier. C'est un être surnaturel. Enfin, il vient de la vie après la mort, il vient pas de notre existence à nous. Et c'est lui qui l'accueille dans le quartier et qui essaye de l'aider à s'acclimater. Et c'est à lui qu'elle cache le fait que, en fait, c'est une erreur et qu'il y a eu un mix-up de dossiers, mais qu'en tout cas, elle devrait pas être là, quoi.
Et puis, au fur et à mesure, ça devient quand même une série de bandes, puisque, en fait, elle va donc rencontrer Chidi, qui est son âme-sœur, parce que, apparemment, dans la vie après la mort, on rencontre son âme-sœur direct, on te dit, bah voilà, c'est ton âme-sœur, bonne vie après la mort. Voilà. Et elle rencontre aussi, donc, deux autres personnages qui sont Tahani et Jason. Et voilà, qui sont des voisins et qui sont aussi des âmes sœurs.
Tout voilà. À fait, très compatibles finalement.
Très compatibles tous ensemble.
Quand est-ce que tu t'y es mise toi à The Good Place?
Eh ben, je m'y suis mise l'année dernière. Et en fait,
Donc il y avait trois saisons?
Ouais, il y avait deux saisons et la troisième sortait ou un truc comme ça. Et en fait, je m'y suis mise et j'ai détesté. Mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça un peu neuneux, enfin je comprenais pas où ça allait, j'avais un peu du mal et tout, et en fait, je me suis arrêtée, et je me suis fait spoiler la saison 1, parce que, bah voilà, il y a un truc à se faire spoiler en saison 1, et en sachant ça, je m'y suis remise, et du coup, j'ai adoré.
Ah bah c'est marrant, tu vois, j'ai le même parcours, mais un an avant. En fait, moi, The Good Place, à la base, ça me tentait parce que c'est une série de Michael Schur, qui est co-créé par Michael Schur, qui est le showrunner de mes séries comiques préférées, puisqu'il a fait Parks and Recreation, The Office américain, que moi j'arrive pas à regarder parce que c'est beaucoup trop cringe.
Ah
mais
ouais,
je respecte, mais vraiment, je suis trop mal à l'aise quand je regarde ça. Parks and Recreation, c'est déjà limite hein, selon les saisons. Des fois, je suis là, ok, parce que j'ai du mal, j'ai trop d'empathie. J'ai du mal quand je suis gênée pour les gens et que la base de la blague, c'est la gêne. Je suis là, non, je rentre dans mon corps, j'ai envie de me cacher, j'ai envie d'arrêter l'épisode. Donc, The Office, j'arrive pas. Mais Parks and Rec, j'aime beaucoup. Et c'est lui qui a fait qui co-crée aussi Brooklyn Nine-Nine. Donc il a cette vibe de série comique feel good, parce qu'au final, même dans The Office, qui est gênant, il y a quand même une idée de vivre ensemble et de tendresse et de bienveillance, bien où l'humour, il est rarement méchant, tu vois. C'est pas irrespectueux, c'est juste des gens gênants, mais qui font quand même de leur mieux à leur façon. Et donc moi, ma série comique préférée de tous les temps, c'est Parks and Recreation, qui est... Alors, petit conseil, si vous voulez vous y mettre, la saison 1 est pas très bien. Vous pouvez la faire, elle fait 6 épisodes de 20-30 minutes, donc vous pouvez la faire pour avoir une idée des persos. Mais en fait, à la base, Parks and Recreation, digression Parks and Recreation, ça devait être un spin-off de The Office. Et du coup, c'est pour ça que c'est tourné comme un faux documentaire avec les parties un peu confessionnelles, les regards caméra, etc. Et Leslie Knope, l'héroïne, qui est jouée par Amy Poehler, devait être une genre de Michael Scott au féminin, donc très très gênante, très à pousser tout le monde et tout. Enfin, complètement incapable de se rendre compte que personne ne l'aime et tout. Et du coup, la saison 1 est un peu maladroite de Parks and Rec et ils savent pas trop quoi foutre de leur personnage. Et l'humour est un peu moins sympa, tu vois, c'est un peu méchant. T'es pas sûr si t'es censé bien aimer Leslie ou pas parce qu'elle est vraiment casse-couille. Et à la saison 2, ils ont un peu retcon, ils ont dit ok, c'est plus un spin-off de The Office, c'est sa propre série. Et du coup, on va écrire des personnages en se détachant de The Office. Et du coup, ils ont un peu réécrit les personnages et leur dynamique. Et du coup, ça devient une série qui est vachement plus feel-good. Donc si jamais vous pouvez commencer à la saison 2 directement, vous n'allez pas rater grand-chose. En gros, il faut savoir que Leslie Knope, c'est une meuf qui bosse pour la mairie. Elle s'occupe des parcs et sa passion, c'est la politique. Mais elle est un petit peu gênante. Voilà, c'est tout ce qu'il y a.
D'accord.
Non, elle est un peu trop intense.
Pour le coup, moi, j'ai jamais regardé Parks and Recreation et...
Je te la conseille, c'est vraiment bien et je pense que c'est assez rare pour être signalé. Notamment, on a mentionné How I Met Your Mother tout à l'heure et tout. C'est rare les séries longues qui finissent bien, qui ont une fin satisfaisante. Parks and Rec, il y a 7 saisons, je crois, et ça finit très bien. Et tous les personnages ont une fin cool, enfin cool, pas forcément positive, mais en tout cas, tu sors pas en te disant « Oh, ils ont gâché tel personnage » ou « Cette storyline, elle menait à rien ». C'est quand même très cohérent et il y a plein de caméos. Du coup, il y a Andy Samberg qui joue maintenant dans Brooklyn Nine-Nine. Il y a toute la troupe du Saturday Night Live, de plein de séries comiques peut-être que vous avez vues partout, et y compris dans The Good Place, mais que vous connaissez, vous savez pas d'où. Bah, elles seront dans Parks and Rec comme elles sont dans Brooklyn Nine-Nine, comme elles sont peut-être dans The Office, ça je sais pas. Du coup, moi, j'étais très hypée à la base par The Good Place parce que c'était la nouvelle série de Michael Shore et que bah j'étais en manque de déjà à l'époque de séries comiques. Et en fait, alors j'ai un truc, peut-être je vais pas me faire des amis, j'aime pas trop Kristen Bell, j'ai jamais accroché à Veronica Mars. Si, elle m'a fait marrer dans Sans Sarah Rien Ne Va, qui est vraiment une très bonne comédie sur la rupture. Mais bon, j'ai pas d'affect particulier avec elle et je trouve souvent qu'elle surjoue un peu, donc j'étais là, bon, de base...
Bah, moi, c'est ce qui m'a fait aussi pas trop aimer au début, j'adore Kristen Bell, pour le coup, sa personnalité, je l'adore. Enfin, je regarde plein d'interviews d'elle et tout.
Ah oui, la meuf dans la vie, elle a l'air ultra fun.
Elle est trop marrante, tu vois. Genre, elle a l'air. Elle me fait un peu penser à Loulou.
Quand, Loulou Petrouchka.
Ouais, quand elle pleure tout le temps, tu vois. Dès qu'elle voit un paresseux, elle se met à pleurer et tout. Elle est mariée à un mec, ils ont l'air de pas aller du tout ensemble. Et en fait, ici, ils vont trop bien ensemble. Enfin, bon, bref, je l'adore dans la vraie vie. Mais c'est vrai que son travail, parfois, j'accroche pas tellement, quoi. Et donc ça m'avait un peu bloqué aussi, je comprends.
Et je crois que j'avais essayé le premier, ou peut-être les deux premiers, et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas drôle, le rythme est pété, c'est un peu malaisant, parce que du coup, tout le truc, c'est je suis pas censée être là, donc elle surjoue, la meuf sympa, et du coup j'étais là, je sais pas. Et en plus, The Good Place, comme c'est dans un monde factice qui est... Je ne veux pas insulter les croyances de quiconque, mais l'architecte lui dit on a construit ce quartier pour qu'il corresponde à vos besoins et tout. Donc il y a un côté très carton-pâte, avec tous les immeubles pastels et
un
tout.
Un peu acidulé.
Avec des effets spéciaux, pas toujours... Enfin, je pense volontairement kitsch. Et du coup, visuellement, j'adhérais pas. Le pitch, j'étais là, ok, bof. Parce que les trucs basés sur le mensonge ou sur la non-communication, ça me saoule très vite. L'héroïne, bif, bof. Donc j'étais là, The Good Place, c'est pas pour moi. Et du coup, là, c'est le moment où je vous préviens, auditeurs et auditrices, on va vous parler de la saison 4 de The Good Place sans spoiler. Donc, vous pouvez rester si vous avez vu les trois premières saisons. On va vous parler de la saison 4 sans spoiler. Mais si vous avez jamais vu The Good Place, on va spoiler des trucs qui arrivent dans la saison 1. Donc, allez-vous-en. Si vous avez jamais vu, on met une mini alerte, une mini sirène. C'est des spoilers pour la saison 1 de The Good Place. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas à jour, barrez-vous. Allez regarder The Good Place. En vrai, c'est fun. Donnez sa chance à la saison 1. Si vous aimez pas à la fin de la saison 1, reprenez pas. Tu vois,
sachant que si vraiment vous avez pas accroché, moi c'est ce spoiler qui m'a fait regarder. Donc
Pareil, du coup j'ai arrêté et en fait j'ai un pote Mathias que j'embrasse même s'il n'écoute jamais le podcast, qui a tout regardé lui, toutes les semaines. Et je crois qu'il avait fait un tweet en mode « Ah The Good Place ça valait pas le coup mais maintenant ça vaut le coup ». Et j'étais là
« Ouais ».
ah, je suis curieuse. Et j'étais vraiment dans l'optique, de toute façon, je vais pas regarder. Donc je lui ai dit, ok, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, t'es sûr. Genre, il a vraiment triple check. Et j'étais là, oui, je vais pas regarder cette série. Il m'a dit, en fait, ils sont pas au paradis, ils sont en enfer. Et c'est un piège. J'étais là.
Et là.
Ah, ok, je vais regarder cette série.
Et là, la série, en fait, prend vraiment un autre sens parce que.
Ce twist est incroyable.
C'est le meilleur twist, mais sauf qu'il arrive. Enfin, je suis désolée, il arrive trop tard parce que. Enfin, vraiment, la première partie de la série, si tu sais pas qu'ils sont en enfer, c'est trop bien fait pour que tu penses qu'ils soient au paradis. Et après, mais avec cette connaissance-là, forcément, t'es là, mais oui, bien sûr,
mais oui,
bien
sûr qu'ils sont en enfer.
Il n'y a pas d'escalier pour accéder à son lit.
Elle est obligée d'en jambes son lit. Il y a des clous de partout.
C'est vraiment des mini cringes toute la journée, quoi. Ou genre, voilà, ils lui ont mis des clowns alors que, enfin, c'est atroce, tu vois. Elle a la plus petite maison. Oui.
Mais c'est très malin parce que ça marche au premier abord vu qu'elle se dit bah c'est pas moi qui enfin c'est une autre Eleanor qui devrait être là donc ils sont basés sur ses goûts à elle et je peux pas dire que j'aime pas sinon ils vont avoir la puce à l'oreille donc je vais faire semblant d'adorer les clowns et les lits surélevés d'un truc juste assez grand pour que ce soit chiant de l'enjamber et une fois que tu le sais que c'est l'enfer et que t'as du coup Michael qui fait ce rire diabolique incroyable, ouais. C'est tellement cool quoi.
Ouais,
c'est... Donc je suis d'accord qu'il arrive tard et en même temps je trouve que c'est courageux. Parce
oui,
que,
c'est
ouais,
quoi,
si tu le fais épisode 4, bon bah le bouche à oreille il marche tout de suite et tout le monde, enfin c'est un peu con j'allais dire tout le monde regarde, c'est le but que tout le monde regarde la série
oui.
Que tu crées tu vois. Mais là il a quand même tenu toute une saison sur un faux postulat qui marche dans les deux sens, qui marche avec le twist et sans le twist, donc je trouve que c'est BG, mais sans savoir le twist j'aurais jamais regardé je pense.
Ouais.
Et après je me dis, je pense qu'en 2019 c'est compliqué de pas savoir le twist parce que bah le marketing autour des saisons suivantes
oui,
forcément partait du principe que tu savais que c'était l'enfer et tout, et du coup le plot c'est devenu non plus il faut que je reste dans The Good Place mais il faut que j'arrive dans The Good Place et que j'arrive à déjouer les plans des démons machiavéliques qui veulent m'enfermer dans The Bad Place, et ça c'était vraiment incroyable.
Non mais pour le coup vraiment je me suis dit mais les gens qui ont écrit ça c'est vraiment des gros cerveaux hein, parce que non mais c'est les pires tortures en fait, ils font vraiment les pires tortures. Penser que t'es pas à ta place, c'est vraiment un truc, mais c'est hyper malin.
Pour l'éternité.
Ouais.
Être avec ton âme sœur qui est nulle, qui te correspond pas du tout pour l'éternité, et tout en faisant semblant toi d'être quelqu'un qui lui correspond, enfin, tu deviens ouf. Le plan de Michael, il était très bon à la base, quoi.
Ouais.
Mais ça a pas marché parce que les humains sont malins et que ils finissent par comprendre qu'ils se font avoir. Même bah du coup t'as tout un passage où ils comprennent à la suite des centaines de fois et au moment c'est Jason qui comprend et Michael il est là, Jason. Sans, c'est Jason qui a compris,
oh,
il y a 4
la
neurones.
Passion Jason, putain. Mais en fait je pense que c'est pour ça aussi que j'avais pas kiffé au début, c'est que t'as parlé tout à l'heure de pour l'éternité, et en fait de faire une série sur l'éternité après la vie, bah en fait t'as une sorte de non-but.
Oui, genre où ça peut
et
aller.
Où est-ce que ça peut aller? Et moi, je ne comprenais
pas.
Ils
vont pas mourir à la fin, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils vont pas mourir. Ils vont pas bouger, tu vois. Donc juste, peut-être, elle va s'intégrer, mais du coup, ça va être chiant parce qu'elle va devenir sympa. Enfin, genre, je sais pas. Il y avait un truc de non but comme ça, et ça m'avait vachement saoulé au début. Du coup,
qu'est-ce que tu penses du coup de ces premiers épisodes de la saison? Donc là, actuellement, il y a 4 épisodes de la saison 4 qui sont sortis. On en est au tiers et c'est la dernière saison. Michael Schur, il a dit, moi, j'ai prévu 4 saisons. L'histoire sera finie, j'ai pas envie de tirer sur la corde, ce qui est cool. Donc, c'est la dernière, elle fera 13 épisodes. Donc, mine de rien, ça va arriver vite, hein, on en est déjà au tiers.
Ouais.
Est-ce que tu l'attendais vraiment ce retour? Est-ce que le jour où c'est sorti, t'étais devant Netflix en mode, ouh, The Good Place?
Pas tant, hein. Enfin.
Bon, on est là pour vous parler d'une série qu'on aime pas.
Non, mais parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais comme c'est une série d'humour, enfin, il y a pas énormément de suspense, c'est surtout une série très drôle, même s'il y a beaucoup de rebondissements et que c'est toujours un peu n'importe quoi, c'est hyper drôle. Mais si tu veux, je savais plus où on en était, j'étais plus dedans comme j'ai pu être dans Game of Thrones et tout. Donc oui, quand c'est revenu, j'étais là, ah,
c'est vrai que j'ai pas fait un récap de The Good Place.
Tu vois,
avant.
Tu fais pas un récap de The Good Place, mais oui, j'étais contente dans le sens où ah, mais je savais plus j'avais pas la date marquée dans mon agenda, tu vois. Mais oui, j'étais super contente et j'ai regardé le premier épisode et je regarde toutes les semaines pour le coup.
Yes. Moi, j'étais quand même hypée, hein. J'avais la date en tête.
Ouais.
Bah comme je te dis, juste, je suis en manque de séries comiques. Je regarde Brooklyn Nine-Nine qui, pour l'instant, est en pause, enfin, entre deux saisons. Et du coup, j'étais vraiment en mode, la vie, c'est pas très marrant. Et j'ai du mal aussi à trouver des films comiques qui me plaisent. Donc, conseillez-moi vos comédies par mail, s'il vous plaît. Merci.
Merci.
Mais je vais sûrement être très chiante parce que je suis très chiante en humour, désolée.
Ouais.
Et du coup, j'étais hypée par The Good Place déjà parce que j'aime beaucoup cette série et parce que enfin, truc où je peux me dire, je vais rigoler un peu. Alors, pas toutes les semaines, mais toutes les deux semaines, tu vois, je vais faire deux épisodes de The Good Place et je serai. Surtout que le pilote est séparé en deux. Donc, c'est The Girl from Arizona, partie 1 et partie 2. Et partie 1 et partie 2, le bilinguisme. Très bien. Eins, zwei. Très bien. Et du coup, j'ai regardé le premier le jour où c'est sorti et je me suis dit, j'aurais dû attendre une semaine et regarder les deux d'affilée parce que c'est un peu frustrant.
Ouais.
Et du coup, est-ce que t'as bien aimé ces quatre premiers épisodes?
Ben, écoute, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que, en fait, elle a pas de problème à se renouveler et à changer complètement
d'angle
et de lieu et de, enfin, elle se, voilà, elle est pleine de surprises et c'est ça vraiment que j'aime bien, en fait, où je suis, en général, assez peu surprise par les séries. Mais là, en fait, c'est vraiment un peu à la... Enfin, ils font vraiment n'importe quoi et ce qu'ils veulent. Donc, je suis contente. Et là, cette saison, écoute, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. J'ai juste un tout petit problème avec le fait que je trouve que c'est de nouveau très centré sur Eleanor. Alors qu'ils ont essayé d'intégrer de nouveaux personnages et ils les bâclent un peu. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est juste ma petite... Mais sinon, oui, je suis toujours à fond.
Écoute, moi aussi. Et le seul bémol que je mettrais, c'est que, en fait, j'ai jamais trop compris où il se place par rapport aux histoires d'amour. Parfois, ça a l'air très important. Parfois, non. Parfois, t'as l'impression que le but de la série, c'est que des couples se forment et que les personnes qui sont ensemble restent ensemble. Parfois, ils s'en battent les steaks. Parfois, c'est juste un drive pour les personnages. Donc, j'arrive jamais à mettre de l'implication là-dedans.
Ouais.
Et surtout, c'est pas des histoires d'amour dans lesquelles je me sens impliquée. Donc, j'espère que cette dernière saison va pas être centrée autour des romances parce que je trouve qu'elles ont jamais vraiment fonctionné, même en termes d'alchimie entre les acteurs.
Ouais,
ça marche
alors,
pas
on
de
est
ouf,
d'accord
quoi.
Ou pas que
ça ne colle pas du tout et c'est pas la faute des acteurs qui je pense font de leur mieux hein. C'est juste il y a des fois ça ne marche pas, c'est un peu comme dans Valérian ou le film de Luc Besson où t'avais Dane DeHaan et Cara Delevingne qui étaient censés être pétris de désir l'un pour l'autre, t'étais là
ça ne fonctionne pas.
Donc voilà, j'espère juste qu'ils vont pas aller trop dans la romance, mais là je trouve que l'équilibre est bon, c'est-à-dire que il y a plein de petits passages dans les épisodes qui te rappellent ok machin, des sentiments pour machin, truc aimerait bien être en couple avec Bidule, mais c'est pas le cœur des épisodes, donc je trouve que c'est une façon assez mesurée d'utiliser les histoires d'amour qu'ils ont créées pendant 3 ans quoi. C'est qui ton personnage préféré avant qu'on passe à la partie spoiler?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je peux dire déjà que mes personnages les moins préférés
le top
sont
moins
Eleanor et Tidy que je déteste. Non mais voilà, j'aime pas les personnages principaux en règle générale de toute façon. Enfin,
c'est,
voilà,
oui, tu as écrit un excellent article pour les pires personnages.
C'est les pires personnages, oui, les personnages, en fait les têtes
pourquoi
de personnages
de série.
Les
héros de série.
Ouais, voilà, c'est ça. Les héros de série pour moi n'ont pas d'intérêt. Genre c'est juste c'est leur tête sur l'affiche, mais en fait c'est pas eux qui font avancer l'histoire ni rien. Enfin bon, bref, du coup, je les déteste. Et donc je déteste Eleanor et Tidy. Voilà. Parce que pour des raisons personnelles, j'aime pas. Non mais je sais pas, ils ont un côté bien pensant, un côté. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop. Alors que Tahani et Jason.
T'aimes bien les sales gosses en fait.
Ah, j'adore ça.
Déjà, mais... t'adores Tahani, mais tu bosses avec Alindy Ramphal.
Mais voilà.
Qui est bon. Et notre Tahani nationale.
Et en fait, du coup, bah, j'ai choisi Tahani parce que, pour moi, c'est la plus drôle. C'est la plus. En fait, c'est la plus inconsciente de son humour. Elle n'essaie jamais de faire des blagues et pourtant, elle est toujours aussi marrante. On peut dire ça aussi de Jason, mais je trouve que Jason, il y a un côté où tu te fous un peu de sa gueule aussi.
Ouais, il est crétin, quoi.
Il est vraiment débile. Alors que Tahani, elle a un côté, voilà, très pur, mais en même temps...
Sa science du name-dropping est incroyable.
Ah, non,
c'est
mais...
le running gag dont je me lasse jamais. Il y a des vidéos sur YouTube, genre tous les name-droppings de Tahani mis à la suite, qui du coup vont être updatés, j'imagine, à la fin de cette saison. C'est mon running gag préféré, quoi. C'est les gens qui name-drop... mais hyper naturellement, et en même temps tu sens qu'elle le fait exprès, tu vois, tu sens qu'elle name drop, elle est pas là en mode ah oui mon pote Kevin qui en fait est fucking
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kevin Costner, putain, c'est du rêve. Genre, elle a pas oublié qu'il est connu, tu vois, quand elle dit « Ah oui, j'étais avec ma bonne amie Taylor, tu sais que c'est Taylor Swift. » Elle sait que c'est Taylor Swift.
C'est comme à un moment, elle fait une vanne sur un concert de je sais plus qui. Elle était là « Oh non, mais je suis pas allée au concert, je l'écoutais sur un CD chez mon amie Adèle.
Oui. » Je la déteste, elle est trop cool.
Je l'aime trop. Et toi, Mimi, c'est qui ton personnage préféré?
J'hésite. Je pense que pendant longtemps, c'était Michael, parce que déjà, l'acteur est incroyable.
L'acteur est très, très bon,
apparemment, c'est un mec qui est hyper connu aux US et notamment dans le monde des sitcoms, où il était dans une sitcom qui s'appelle Cheers, qui était un truc vieux, culte, mais c'est vieux, il est pas tout jeune.
Ouais.
Du coup, moi, j'avais pas trop, il me disait rien, mais ce mec est... Enfin, sa voix, son look, son rire, enfin, tout est parfait, je l'aime trop. Mais je pense qu'il est en train de se faire détrôner par... Il s'appelle Sean. Putain, j'ai pas noté son nom.
Ah, Sean, le chef des démons.
Oui, Sean.
Satan, quoi.
Alors déjà, je l'adore parce qu'il joue un perso que j'aime trop dans Brooklyn Nine-Nine, où il joue le compagnon du capitaine du bureau de police, et il s'appelle Kevin, et il est hyper stoïque tout le temps. Et genre, ils font des vannes en mode « On a mangé du riz blanc, c'était délicieux, mais insupportable. » Donc déjà, j'adore cet acteur, j'étais trop contente de le revoir. Et son rôle est un peu le même, dans le sens où Sean, il est hyper propre sur lui, il est hyper... pince sans rire et tout, mais il dit des atrocités et il est un peu plus drivé par ses émotions que le personnage de Brooklyn Nine-Nine. Et juste, il me fait crever de rire. Dit des saloperies tout le temps, mais avec cette poker face. Et j'aime trop cette haine qu'il a envers Michael. Je pense pas qu'il gagne à la fin, ce qui n'est pas un spoiler, mais je pense pas que les méchants gagnent à la fin.
Je pense
pas
que c'est le genre
de
série.
J'espère qu'il aura une bonne scène finale, parce que déjà, quand il y avait Adam Scott qui jouait un démon dans la saison 1 ou 2, je sais plus, The Good Place, avec une grosse beubare là, le mec qu'il joue du coup dans Parks and Rec, j'étais trop contente de le voir et j'étais contente qu'il ait des vraies scènes et qu'il puisse vraiment genre donner son talent d'acteur à être trop chiant. Vraiment, son personnage c'était je suis trop chiant.
Ils sont trop chiants. En fait, j'adore cette vision de l'enfer où genre c'est pas, tu te fais pas brûler et tout, c'est juste t'es chiant, tu fais chier les gens.
Bon, apparemment, il se faut aussi empaler et ressortir des organes et rentrer par un autre trou, mais on ne le voit pas, car ils n'ont pas le budget et que ce serait pas trop dans le ton de la série, je pense. Mais ils en parlent très naturellement, tu sais, ce qui me fait beaucoup marrer. Donc je pense que c'est Sean, mon préféré, parce que les méchants stoïques pincent sans rire, c'est
petit
crush.
Il est très très bien, mais par contre, on le voit peu.
Oui, mais c'est peut-être pour ça aussi, on n'a pas le temps de s'enlacer, tu vois. C'est peut-être que c'est pour ça qu'on aime moins les personnages principaux, parce qu'on a le temps de s'enlacer. Alors que Sean, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Quand il y a une scène avec lui, je suis là, il y a Sean dans cet épisode, c'est trop bien. Parce que même si c'est l'antagoniste, il y a des fois, on le voit pas du tout pendant tout un épisode, mais on sait qu'il est là quelque part.
Oui, oui, tu te demandes par où il va réussir à s'infiltrer la prochaine fois.
Oui, oui, oui. Est-ce qu'on passe à la partie spoiler?
Écoute,
je sais pas si on aura énormément à dire en spoiler, mais on va quand même passer à une partie, on va vous prévenir. Arrêtez d'écouter si vous n'êtes pas à jour sur The Good Place jusqu'à l'épisode 4 de la saison 4.
Voilà.
Est-ce que t'as des moments préférés dans ces 4 derniers épisodes?
Alors, moment préf, j'ai noté moment préf dernière saison, puis pas noté de moment. Voilà.
Excellent.
Attends, du coup, non, vas-y, commence. Moi, je vais retrouver là.
Je pense que c'est pas un moment, mais c'est un personnage. J'aime beaucoup l'évolution de Janet dans cette saison, parce que comme elle doit gérer tout ce faux quartier toute seule et avec aucune aide extérieure, elle est, en fait, elle a plus le time et vraiment, elle commence à avoir un ego qui se développe au lieu d'être juste en mode je suis un robot. Je ne suis pas un robot, pas une meuf, mais je fais tout ce que vous voulez. Là, elle est, dès que quelqu'un lui demande un truc, elle est en mode bah oui, parce que j'ai que ça à foutre, j'ai pas du tout un quartier
à
faire.
Mais oui, mais alors, attends, est-ce que t'as regardé jusqu'au bout?
Oui.
Bah du coup, on sait pas, c'est Bad Janet du coup à un moment.
Mais c'est Bad Janet depuis quand?
C'est Bad Janet depuis épisode 2, je crois. Hein.
Ah oui, elle a pas le time depuis l'épisode 1. Est-ce que t'avais compris quand... Est-ce que t'as tiqué quand elle dit pas « not a girl » ?
Non.
Moi j'ai tiqué, j'étais là, elle a pas dit not a girl? Est-ce que genre elle est en train de... Mais comme je suis qu'un con, j'ai tiqué mais j'ai pas déduit. J'étais là, ah pour une fois elle a pas dit not a girl, peut-être qu'elle est en train de devenir un peu humaine, peut-être que c'est ça qu'ils essayent de nous dire, tu vois. Genre au contact des humains, elle commence à se considérer genre je suis un vrai petit garçon, pas du tout. Appelez-moi pour vos enquêtes criminelles et vos déductions.
Elle repérera tout, mais ne déduira rien.
Je repère les indices, mais je ne sais pas quoi en foutre. Ce qui est un peu ma vie dans les escape games. Donc finalement, c'est très cool.
C'est très logique, du coup. Ouais, donc t'aimes bien ce personnage de Janet qui...
Oui, et c'est vrai que j'ai pas encore recalibrer ma perception d'elle en sachant que du coup pendant la moitié c'était pas elle, mais enfin c'était pas elle, c'était pas Janet qui fait semblant d'être elle, mais je trouve que enfin cette actrice fait des trucs incroyables depuis la saison 1. Pareil, je l'avais jamais vue nulle part, donc je suis arrivée sans avis, sans a priori positif ou négatif, et je suis contente qu'elle puisse explorer d'autres facettes du perso. Et alors elle, j'aime trop la voir en interview, elle est ultra fun sur Twitter, elle est grave à fond, elle arrête pas de tweeter des trucs en mode « merci de regarder les épisodes et tout, elle est trop bien !» Et je suis contente qu'elle puisse montrer un peu plus de son talent. Et après sinon, ah, j'avoue, toutes les scènes avec Derek, c'est ma passion. Donc Derek, c'est
le
mec...
Derek, j'avais oublié dans mes personnages préférés.
En fait, quand il était trop là, quand il était beaucoup là, il me fatiguait vite parce que ce genre de semi-robot pété qui, enfin.
Mais il joue un peu un rôle similaire dans Brooklyn Nine-Nine, en gros.
Il joue un mec, enfin un flic qui a été en undercover pendant très très longtemps et qui s'est cramé le cerveau, qui était déjà bien cramé à la base, mais ça lui a cramé le cerveau et du coup il est complètement instable. Et là, bah, c'est Derek quoi, il Derek tout le temps, on peut dire.
Il Derek, ouais.
Et autant, ouais, quand il y avait des storylines où il était beaucoup là avec toute son histoire avec Janet et tout, j'étais là, pff, en vrai, c'est long. Enfin, c'est un peu une seule vanne, tu vois, c'est Derek. C'est la vanne, c'est Derek. Mais saupoudrer de temps en temps, là, un petit peu de Derek, je suis là, oui, Derek. En fait, l'humour visuel dans cette série est incroyable, quoi. C'est juste, il a un verre à martini, et dans le verre à martini, il y a un citron entier. Et c'est ça, la blague. C'est hilarant. Des fois, je mets pause juste pour regarder les blagues, ou alors parce que ça me fait trop rire qu'il ait un verre avec un citron dedans de façon normale, et que tout le monde ait renoncé à lui faire comprendre que c'est pas normal. C'est ma passion. J'adore.
Mais j'avoue, j'adore Derek. J'adore Derek. Ouais. Avec les sextoys, là, et tout. Bon, bref.
Les carillons du cul.
Enfin, bon, ils découvrent une. Enfin, c'est du coup Eleanor
et Michael, Jason. Et Jason. Oui, il y a Jason parce que gros, Jason il déteste Derek vu qu'il est amoureux de Janet.
Oui, c'est ça. Et donc, en fait, Michael a été enfermé dans une pièce pour savoir si c'était vraiment un démon déguisé en Michael. Enfin, un
Vicky
démon.
Déguisé.
Vicky. Non, un démon déguisé en Vicky déguisé en Michael, ou si c'était Michael, un démon déguisé en Michael. Bref.
Bref, vous l'avez. Est-ce que c'est Michael ou est-ce que c'est Vicky?
Du coup, voilà, il est enfermé. Et en fait, dans cette chambre, il y a des sextoys.
Mais en fait, c'est des objets normaux, c'est des sextoys parce que le corps de Derek ne marche pas, parce que Janet l'a raté et qu'il n'a pas un corps normal. Enfin, l'a raté. Toutes les créations de Dieu sont parfaites, bien sûr, mais il est apparemment, il a un carillon à la place de la bite, quand même, parce qu'il y a un moment où ça fait gling-gling quand il arrive chez Mindy Sinclair. Genre juste, ils prennent plein de cocaïne, ils font du cul. Mais je pense que jusqu'à Derek, peut-être mon perso, enfin Mindy Sinclair était clairement dans mon top 3 des persos préférés. Parce que cette façon d'être la pire et la meilleure personne, enfin déjà sa storyline, je trouve, elle est trop bien. J'ai été la pire connasse, mais sur la fin, j'ai fait un truc bien, qui était tellement bien, qui m'a mis au milieu. Et d'être juste de se faire chier tout le temps dans sa maison médiocre, avec ses VHS médiocres et tout. Mais ça rend ouf. Et du coup, quand elle veut juste de la cocaïne, c'est son objectif dans la vie, elle me fait trop rire. Et je l'aime bien parce qu'elle est un peu saoulée par Eleanor et Chidi aussi, qui est clairement l'histoire d'amour que je comprends pas. Je me suis jamais impliquée là-dedans.
Ouais.
Je sais même pas... Si... Enfin, je pense qu'au point où on en est, c'est censé être réel et on est censé avoir envie qu'ils finissent ensemble, tu vois. Mais je suis là... Qui...
En fait,
qui est impliqué
de...
dans cette histoire, en fait. Qui y croit, qui a des bails émotionnels sur j'ai trop envie qu'à la fin Eleanor et Chidi finissent ensemble, tu vois, j'ai pas l'impression que ça ait pris.
Non.
Et ça me surprend parce que Michael Shore d'habitude il écrit
des
histoires d'amour très jolies, quoi. Dans Brooklyn Nine-Nine, il y en a plein, dans Parks and Rec, il y en a plein.
Non, mais dans The Office, moi, tu sais que.
Jim and Pam,
mais alors moi je me fais des. C'est des vidéos YouTube qui retracent toute l'histoire de Jim and Pam.
Est-ce qu'il y a du CIA en fond?
Non, mais ce genre de vidéo, tu vois, vraiment avec du CIA et tout. Et vraiment, je pleure toute ma vie.
Moi, je suis Team Leslie et Ben de Parks and Rec, mais je sais que c'est à peu près la même. Coup, en vrai, c'est à peu près la même team, juste sur deux séries différentes, mais c'est la même idée. Et du coup, je comprends pas pourquoi il y a aucune histoire d'amour qui marche dans The Good Place. Ou alors, faites-en. Enfin, c'est pas grave s'il y en a pas, tu vois. Ils auraient pu ne pas faire une histoire d'amour et juste faire une histoire d'amitié, et ça aurait été cool. Ou alors, ils disent clairement que Eleanor est bi. Et ils font des vannes sur le fait que... Enfin, tu vois, elle fait tout le temps des vannes sur Tahani. Enfin, elle fait tout le temps des remarques sur Tahani qui est trop belle et tout. Donc je suis là, bah, faites cette histoire d'amour. Peut-être que je serais impliquée dans une romance entre Eleanor qui fait 1m12, qui est une petite blonde hyper nerveuse, et Tahani qui est un genre de girafe majestueuse. Tu vois, j'ai envie de voir ce couple. Mais Eleanor et Chidi, je suis... Mais, bah, mais en fait... même Jason et Janet, même Tahani et tout, je suis là...
Janet, il y a un truc, mais sauf que comme Janet devient plus intelligente que Jason, bon bah...
Ah, c'est pas dur, hein. Enfin,
elle... Ouais, non, mais tu vois, elle devient limite plus humaine que lui, quoi, parce que vraiment, lui, il manque des cases, quoi.
Et t'es percé très près du mur, quoi. Non,
mais voilà. Mais du coup, en fait, je sais pas, je pense que c'est aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est la série, elle se renouvelle énormément. Et du coup, ils hésitent pas à changer, donc à les remettre sur Terre, par exemple, en saison 3, je crois.
Oh, c'était trop bien, ça.
Ouais, c'était une bonne idée.
J'étais tellement contente quand ils revenaient sur Terre.
C'était une très bonne idée. Mais du coup, ils se reconnaissaient pas. Ensuite, bah, du coup, dans cette saison-là, Chidi perd la mémoire. Enfin, il lui efface la mémoire pour pouvoir sauver le reste du monde. Du coup, en fait, ils ont plus de moments complices. Ils ont pas, enfin, la construction de leur histoire d'amour, c'était sur la saison 1 où on pensait que, bah, voilà, c'était le paradis et que, en fait, finalement, il l'aidait. Enfin, voilà. Et en fait, ça s'est un peu cassé la gueule avec bah, la saison 2 et la saison 3.
Ils sont rebootés tout le temps, donc forcément. Mais c'est vrai que peut-être que c'est pour ça que ça marche pas. On n'a pas le temps de suivre leur histoire d'amour, en fait, parce que la série a ce courage qui est de prendre une idée qui pourrait faire toute une saison et dire « Ok, on va en faire deux épisodes et après on change, donc ça va très très vite. » Mais du coup, autant leur amitié, j'y crois, l'amitié de cette bande et leur amitié avec Michael et leur envie d'aider Michael à devenir une bonne personne, enfin devenir une personne du coup, en tout cas avoir
devenir
des...
pas un démon.
Voilà, pas un démon de, je sais pas, il dit quoi, il fait 6000 pieds de haut,
ouais,
et
1800
il a des tentacules,
mètres.
C'est genre un poulpe en feu, j'étais là.
Vous me verrez plus jamais pareil.
Claquer le budget, effets spéciaux, je veux voir ça au moins une fois. J'espère que, maintenant qu'il l'a dit, j'espère qu'une fois on le verra sans.
Ouais, moi
genre
aussi.
Une seconde, tu vois, derrière une vitre ou je sais pas, histoire de. Mais parce que cette relation-là, elle se développe depuis 4 saisons, quoi. Leur amitié avec Michael, et au final, la romance, pas trop. Donc j'espère qu'ils vont pas trop insister dessus. Là, je trouve ça pas mal le truc de ok, Eleanor, elle a dû un peu laisser Chidi se sacrifier, et elle fait avec le fait que ça la rend triste, mais que c'est pour le bien commun, tu vois. Je suis là, ok, ça va. C'est pas trop dérangeant. Donc j'espère qu'ils vont pas nous remettre dans les pattes des longs moments de Chidi et Eleanor au lit, parce qu'à chaque fois je suis là...
Gênant, je ne sais pas où me mettre.
Ces gens n'ont pas vraiment envie de se pécho. Ouais, est-ce que tu penses qu'ils gagnent à la fin?
Qu'ils gagnent...
Bah pour moi, là, leur but, c'est de prouver que les humains peuvent s'améliorer et de prouver que le système des points, il est niqué, parce que c'est impossible d'avoir assez de points, en fait. Et ils disent que bah, ça fait des centaines d'années que personne n'est rentré dans la Good Place, tu vois. Même les gens qui ont vécu la meilleure vie. J'adore l'épisode où ils vont voir le fameux mec qui avait vu la vérité et qui, du coup, essaye de vivre sa vie pour gagner le plus de points possible. Et même lui, il est dead, en fait. Enfin, il peut pas gagner alors que...
Ils ont une photo de lui.
Il enterre les petits escargots, quoi. Il marche dessus et tout. Enfin, il mange que des lentilles, je crois. Enfin, c'est nul, sa vie. C'est pourri. Et du coup, même lui, il peut pas gagner. Donc, pour moi, à la fin, le but, c'est de prouver à la juge que le système est comment dire,
est corrompu.
Corrompu. Et que, du coup, il faut revoir les stats. Et qu'il y a probablement plein de gens en enfer qui méritent pas d'y être. J'ai l'impression que ça fait beaucoup pour une seule saison d'arriver à faire tout ça. Mais en même temps, voilà, la série va vite. Et là, on est arrivé à une cassure dans la saison 4 où, bah, en fait, Janet, c'était pas Janet. Et Michael, on n'est pas sûr de qui il est.
Moi, j'ai toujours un doute sur Michael.
Moi aussi.
Et je trouve que cette série aussi, elle a ce côté où donc elle pose énormément de principes philosophiques tout en étant ludique. Donc voilà, c'est instructif et ludique à la fois.
Apprendre en s'amusant.
Mais voilà, t'as ce côté-là aussi. Moi, j'aime bien les choix impossibles et c'est vachement exploité. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce côté-là. Du coup, j'ai toujours peur de ces retournements et que Michael, en fait, ce soit un démon quand même. Enfin,
soit un
double
piège.
Je sais pas, en fait, où ça va. J'aurais du mal à dire. Est-ce qu'ils vont réussir à faire s'améliorer ces 4 nouveaux humains? Enfin, plus 4, 3 plus Chidi.
J'aime tellement. Comment il s'appelle? Brent ou je sais pas quoi là, le mec blanc. Le mec blanc qui a toujours raison. C'est ma passion, ce personnage. Oh là là. Et franchement, Michael Schur, c'est un mec blanc de base, tu vois. Et ok, il a une team de scénaristes et tout. Je vais pas dire que c'est lui qui écrit toutes ses vannes parce que je pense qu'ils sont beaucoup. Mais il a jamais peur de faire des vannes hyper bien ciblées sur les gens qui profitent du système, notamment les mecs blancs comme lui. Et franchement, ce personnage qui est juste tellement. Assis dans ses convictions qu'il a raison et que le monde lui doit des trucs. The Better Place, j'étais là, c'est évident, évidemment. C'est, il dit ça en mangeant son homard et tout, enfin, c'est vraiment un connard.
Non, mais c'est fou. Et du coup, j'aimais bien ce côté où vraiment cette nouvelle saison, donc il y a 3 nouveaux personnages qui sont du coup
là pour être améliorée, en fait, et pour... Enfin, c'est un peu les petites expériences des quatre, là, qui veulent prouver quelque chose. Et donc... Mais en même temps, je trouve qu'ils bâclent un peu ça aussi, tu vois. Genre, je trouve qu'ils bâclent un peu les personnages.
Pour l'instant, on n'y a pas passé trop de temps, ouais.
Genre, ils ont dit, ah bah Brent, du coup, pour le coup, bah vas-y, on va lui dire de faire ça. Et comme ça, on va lui dire qu'il y a un better place. Et du coup, bah comme ça, il va faire ses trucs de son côté. Et puis voilà. Et genre, j'étais là, bon, d'accord.
Je suis pas sûre que ça va marcher.
Ok.
Et non, puis... c'est vrai qu'ils expédient un peu, mais c'est ça qui me fait me dire que, en fait, ça va pas être ça le propos de la saison, tu vois.
Ouais.
Comme ils l'ont fait avec plein de storylines qui durent finalement que quelques épisodes. Parce que là, c'est pareil, c'est Simone, l'ex de Chidi, qui, elle, je trouve, c'est très intéressant, ce truc de, en fait, c'est mon cerveau qui est en train de mourir, qui fait ça, c'est mon travail, je le sais. Et du coup, bah, tu peux pas la convaincre d'être cool parce qu'elle a, ok, petite voix dans ma tête qui me dit d'être cool.
C'est horrible, les gens, comme ça.
Mettre quatre chapeaux sur ma tête parce que je peux. Ah, mais tu peux pas lui parler.
C'est horrible, les
elle
gens comme ça.
Elle croit que c'est dans sa tête. Et du coup, en fait, je trouve que c'est un peu facile de dire on va lui coller Chidi dans les pattes et il va la faire réfléchir. Et genre, le gars, en une discussion, il... Ouais. Tu vois, il arrive à lui faire dire « Ok, peut-être que t'es réel, peut-être que t'es pas réel, mais ça m'intéresse. » Et je suis là « Mais comment ? Enfin,
ouais.
Pourquoi ?» Alors, ok, il s'aimait bien dans la vie, mais ça va un peu vite. Donc, je me dis que potentiellement, ils vont évacuer. En fait, je pense pas qu'ils vont passer la saison dans le quartier. Je pense qu'ils vont retourner en enfer ou retourner sur Terre.
J'aimerais
ou...
trop voir The Good Place. Enfin, la vraie Good
bah,
Place.
Je pense qu'à la fin, on voit la vraie The Good Place. Ou alors, à la fin, il n'y a pas de The Good Place.
Ouais,
et
peut-être.
Tout ça est...
Toi, tu penses que ça va finir
dessus,
comment, du coup ?
C'est dur à dire. Hein. Je pense pas qu'ils oseront montrer Dieu. Parce que je pense pas qu'on ira plus haut que le juge, tu vois. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps non plus pour présenter des nouvelles instances dirigeantes.
Ou alors, Dieu, c'est Derek, tu sais. Le pire troll.
Ouais, j'espère que ça va pas être un twist en mode en fait Eleanor c'était Dieu ou quoi, mais ouais, je pense pas. Et en fait, bah, je suis comme toi, je sais pas exactement où ça va aller. Je pense que c'est paradoxalement trop tôt pour le dire alors qu'on en est à un tiers de la dernière saison. Mais voilà, on est à une fin de story, enfin un élément perturbateur où du coup c'est dur de savoir ce qui va se passer ensuite. Je pense pas qu'ils vont rester dans le quartier toute la saison et je pense qu'ils vont réussir à défendre le libre arbitre des humains et le fait qu'il faut leur faire confiance pour s'améliorer, mais je sais pas exactement comment quoi.
Ouais.
Je pense que Sean aura une super dernière scène. J'espère que Sean aura une super dernière scène.
Mais moi, ouais, j'étais trop contente de revoir Glenn aussi cette saison.
Le pire démon.
Fucking Glenn, il est nul. C'est le démon le plus nul de la Terre.
Mais j'aime beaucoup l'aspect bureaucrate des démons, tu vois. Oui. Ils sont juste en réunion. On dirait nos réunions de rédac en moins fun, tu vois. Ils sont autour d'un bureau. T'as un boss qui dit « Ok, c'est à l'ordre du jour. » Enfin, à la limite, ils n'ont pas un PowerPoint et, et des verres d'eau tiède. Donc ça, j'aime bien cette vision. C'est ça qui est intéressant aussi dans The Good Place, c'est que moi, j'ai une fascination pour réinventer des trucs, des figures que tout le monde connaît déjà. Et donc, la figure du démon, la figure de l'enfer, il y a eu déjà un milliard d'interprétations, dont certaines qui avaient ce côté bureaucratique.
Oui.
Mais ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles façons d'imaginer ça, où tu te dis, bah, tout a été fait. Et en fait, tu peux toujours twister ça d'une façon différente. Et comme ils ont la prudence de jamais dire la religion sur laquelle ils se basent, du coup, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, tu vois. T'as des démons, t'as pas d'anges. T'as une good place, t'as une bad place. C'est pas vraiment le paradis, la good place. Parce... Enfin, on sait pas à quoi elle ressemble pour de
t'as
vrai.
T'as des points.
T'as des points, mais c'est pas non. Enfin, c'est plus du karma que des trucs, que des péchés, tu vois. Puisque c'est des péchés débiles, oui. Genre vie en Floride, tu vois. C'est un péché. T'as la juge, mais qui a jamais une. Et du coup, ils peuvent se permettre d'inventer ce qu'ils veulent, puisqu'ils vont offenser personne, puisqu'ils disent pas c'est telle religion qui avait raison.
Mais en fait, du coup, j'ai rematé la saison. Hier soir, parce que bah voilà, je t'en manque de The Good Place. Et en fait, c'est la première question que demande Eleanor. Elle fait ah, alors qui avait raison, tu vois, qui Et donc là, c'est là que Michael dit bah, les hindous avaient 5% bon, les musulmans aussi, les catholiques aussi, mais il y en a qu'un qui a trouvé à 92%, c'est
le mec, le mec
sur le mur, je sais plus comment il s'appelle, Doug ou un truc comme ça, enfin bon, je sais plus.
Et qui était en plein trip pour champi ou un truc comme ça.
Un truc comme ça.
Qui a vu la vérité.
Voilà, il l'a
raconté
à son pote.
Il a ruiné sa vie au final, donc super,
super.
On est ravis. Si on a fait le tour de cette saison
bah,
4,
oui.
Tiers 1 de The Good Place, je pense que oui. Bon, bah, c'était cool. Écoute, je suis contente d'avoir parlé de The Good Place avec toi.
Ouais.
On a fait le tour.
J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'avoir la fin de cette série, même
oui,
si j'ai
aussi.
Pas du tout hâte d'avoir la fin
c'est
de cette série. Parce qu'après, c'est fini.
Mais Brooklyn Nine-Nine a été sauvé et renouvelé, donc il nous restera un petit peu de Michael Schur. Et d'un autre côté, je me dis peut-être, ça lui ouvrira le temps pour faire d'autres trucs. Anyway. Anyway, c'est la fin du coup de cette discussion sur The Good Place. Et on va conclure cet épisode de Sors le Popcorn comme on le fera à chaque fois avec une petite reco supplémentaire d'un truc qui sort là en ce moment. Donc c'est facile pour les épisodes cinéma puisque ça sort le mercredi, il y a des films au cinéma.
Voilà.
Là tout de suite c'est plus compliqué pour les séries puisqu'il n'y a pas forcément une série qui sort aujourd'hui. Mm. Mais j'ai une série qui est sortie cette semaine au moment où cet épisode sort. Puisque je voulais vous parler de Watchmen, la nouvelle série HBO qui a commencé le 20 octobre. Donc ça sort le dimanche soir sur HBO et c'est le lundi sur OCS chez nous. C'est très très attendu puisque c'est la nouvelle adaptation du fameux comics Watchmen d'Alan Moore qui avait déjà été adapté en film et qui est cultissime parmi les gens qui aiment bien les comics, qui pour le coup n'est pas dans un univers, il n'y a pas les Avengers, il n'y a pas les... Est-ce que c'est DC ? Oh, est-ce que j'ai dit une connerie ? I don't know. Bref, il n'y a pas les Avengers ou Justice League ou Batman ou whatever, c'est un groupe de... C'est une histoire unique. Et HBO l'adapte, ce qui est probablement la série la plus attendue de l'année pour en tout cas tout le monde qui aime bien les super-héros. Donc moi, j'ai bien aimé The Boys et Watchmen. J'ai bien aimé le comics que j'ai lu il y a longtemps et le film. Et du coup, j'étais très curieuse de voir ce que HBO allait en faire. Alors moi, je connais pas... Enfin, j'ai lu le comics il y a très longtemps et je vois à peu près l'histoire du film. Mais je sais pas ce qui se passe, ce que ça implique comme univers étendu, machin. Je me suis pas penchée sur le monde écrit de Watchmen. Et à la base, je voulais qu'on fasse ce premier épisode de Sors le Popcorn sur Watchmen, puisque mais l'épisode 1 allait être sorti. On s'est dit, ok, on va parler du pilote, de ce que ça nous donne comme attente. C'est produit et écrit par Damon Lindelof, qui est derrière Lost et The Leftovers.
Ma passion.
Lost, ma passion, notre passion. Et The Leftovers, ta passion. Ouais. Il faut que je re-regarde un jour, car j'avais pas réussi la première fois. Et du coup... Bah, j'ai regardé le pilote hier.
Bon. C'est Lindelof.
C'est Lindelof, c'est-à-dire, il y a plein de personnages et c'est confus. C'est très confus. En fait, il se passe plein de trucs isolés et tous ces trucs sont intéressants et intrigants, mais c'est vraiment un pilote dans le sens où voilà, il se passe, je sais pas, il doit y avoir 4 ou 5 segments dans une heure et bah, tu sais pas où ça va, quoi, parce que même si tu reconnais quelques motifs, donc t'as le smiley, il mentionne le comédien ou d'autres personnages voilà, de Watchmen qui étaient dans le film, qui sont assez visibles dans le comics. J'ai pas tout compris à ce qui se passe, j'ai pas de problème avec ça, je vais continuer à regarder. J'ai regardé avec Fab, lui, ça l'a un peu plus frustré le côté, en fait, je sors de ce pilote et j'ai rien bité. Moi, je suis là, bah, laisse le temps au temps, c'est un premier épisode, oui. Donc en fait, tout fera sens au fur et à mesure. Il m'a dit, c'est Lindelof, c'est pas sûr que tout fasse sens. J'ai dit, c'est pas faux, mais moi, j'aime bien. Donc voilà, on vous a pas parlé de Watchmen parce que c'est trop compliqué de vous en dire beaucoup avec juste ce pilote et qu'on vous en parlera peut-être quand il y aura eu plus d'épisodes. Mais je voulais quand même mentionner que Watchmen est sorti, que c'est en tout cas très très beau. Ça, on peut pas lui enlever. Il y a plein d'acteurs et d'actrices ultra cool. Et je pense que ça va être bien. Les premiers retours des gens qui ont pu voir des épisodes, voir soit quelques épisodes, soit toute la série aux US, parce que c'est des journalistes spécialisés, sont très très positifs. Donc je pense que je vais bien aimer Watchmen. Mais je sais pas encore si je vais bien aimer Watchmen, donc je vous redirai. Mais en attendant, vous pouvez regarder Watchmen sur OCS toutes les semaines le lundi à la place de Succession, du coup.
Eh oui. Bye bye Succession.
Jusqu'à l'année prochaine. See you next year. Est-ce que t'as un truc à recommander en ce moment, toi ?
Alors, qu'est-ce que j'ai à recommander en ce moment ? C'est une recommandation, pareil, très esthétique, très profonde. Enfin voilà, c'est Riverdale.
Le point Riverdale.
Alors, je vais faire un point sur Riverdale. Riverdale est une série que j'adore. Voilà. Arrêtez de me juger, voilà.
Non, mais j'ai rien dit.
Je vous ai déjà parlé de Planqueur, j'avais une réputation de merde.
Non, mais c'est pourquoi t'adores Riverdale? Parce que du coup, moi j'ai regardé la saison 1.
Ouais.
Et au-delà de l'aspect, ok, c'est full popcorn, c'est marrant, j'étais là, bah c'est pas assez marrant pour que je m'investisse, quoi. C'est pas une série comique, c'est juste une série... où j'arrive pas du tout à croire à ce qui se passe parce que c'est des ados avec des six-packs, des abdos de cons et des gangs et un truc qui vit Gargoyle King et tout. J'étais là, mais je croyais que c'était juste une histoire policière. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe trop de trucs.
Ouais, mais ça, en fait, la première saison est très... je pense que la première saison, ils ont essayé de faire quelque chose qui tenait debout.
Et après,
ils ont arrêté parce qu'ils se sont dit, il y a déjà plein de séries qui tiennent debout.
Si on sortait.
Mais en plus, c'est une série donc qui est inspirée des Archie Comics, qui sont des bandes dessinées que j'ai jamais lues, mais qui en fait brassent cet univers là très très pop, et puis avec des prénoms qui n'existent pas. Enfin, il y en a un qui s'appelle Cruche, quoi, limite. Donc
Jughead.
Enfin voilà. Et mais donc voilà, ils ont décidé d'en faire un truc qui se barre un peu en couille, mais toujours avec, je trouve, du recul sur eux-mêmes et en faisant toujours trop. Du coup, ça marche.
C'est vrai que c'est très assumé au moins, quoi.
Mais c'est très assumé.
C'est pas comme
les
séries un peu entre deux où, genre, c'est des lycéens joués par des gens de 30 ans. Et ils font comme si de rien n'était. Là, ils sont là en mode, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les cheerleaders faire un numéro en résine dans une prison pour sortir une infiltrée. On va le faire, non?
T'as quand même pas mal regardé, Mimi. Hein,
je vois des gifs sur Internet. J'ai regardé 6 épisodes.
Mais du coup, oui, c'est très assumé et c'est surtout très joli.
Attends, ce que je viens de dire, c'est vrai?
Ouais, à un moment, ils font, il y a une prison, ils font évader quelqu'un et tout. Mais je sais plus s'il y a les cheerleaders ou pas. Tu pourrais écrire des séries, Mimi.
Tu mets plein d'éléments dans un chapeau, tu secoues et t'es là, les cheerleaders dans une prison pour une évasion, c'est parti.
Non, mais moi, j'aime trop ce côté très kitsch. Voilà, c'est une série que j'aime bien regarder. Bon, je suis pas en train d'attendre avec impatience chaque épisode, mais pareil, il y a un épisode qui sort par semaine sur Netflix en ce moment. Donc, c'est la saison 4 qui passe en ce moment sur Netflix. Et donc voilà, il y a un épisode par semaine et c'est toujours autant n'importe quoi. Ils ont quand même fait un premier épisode en hommage à Luc Perry, qui est décédé du coup, bah plus ou moins pas pendant le tournage du coup, je pense entre deux saisons d'un AVC.
Luc Perry qui jouait le père du coup du héros Archie,
ouais,
et qui était pour les personnes vieilles comme moi le bad boy dans Beverly Hills.
Voilà.
Dylan, mon premier amoureux.
Mais voilà. Beverly Hills, la vieille génération. Pas
ah
la
oui,
génération
pas, 90 machin, non. Beverly Hills avec les vieilles coupes et Brandon là de voilà, des années 90 justement.
Du coup, j'ai trouvé ce premier épisode assez touchant, ou dans le sens où vraiment ils rendaient tous hommage. Enfin, moi, ça m'a limite fait pleurer parce que vraiment ils rendaient tous hommage à cet acteur en gardant le personnage qu'il incarnait. Et en fait, il y a une apparition à un moment, il y a un caméo de donc comment elle s'appelle la meuf dans Beverly Hills.
Alors il y a Brenda.
Brenda.
OK.
Voilà, donc il y a un caméo de Brenda qui arrive et enfin bon voilà. C'est cheesy à mort, mais bon, en fait ça va dans la série et c'est un bel hommage. Donc voilà, et ensuite la série reprend sur les chapeaux de roue.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'entité surnaturelle dans la forêt. Ouais, bah let's go, ok. Elle peut dealer de la drogue. Ouais, ok.
Non, mais voilà, au moins t'es toujours surpris. Moi j'aime bien être surprise.
Ah,
Riverdale,
bah oui.
Je suis surprise.
On parlait de The Good Place qui se renouvelle constamment.
C'est ça.
Riverdale, je ne sais jamais exactement de quoi parle cette série, mais quand j'ai compris que Riverdale faisait partie du même univers que Sabrina... Ça est, mais même de base dans les comics, ça a éclairé beaucoup de choses dans ma tête parce que je savais pas que ça avait un côté un peu surnaturel Scooby-Doo. Je pensais que c'était une série réaliste, c'est un grand mot, mais dans le monde réel. Et du coup, le fait de savoir que non, l'univers de Riverdale, il est aussi surnaturel et fantastique, j'étais là, ah
oui. Il est plus fantastique que surnaturel parce que c'est vraiment toujours à la limite entre les deux. Tu sais, ça peut être expliqué, mais pas vraiment. Enfin bon, il y a des trucs. Donc voilà, mais c'est toujours des lycéens qui ont des bars, qui possèdent des bars. Hein, donc, voilà.
Like you do, gagner ton argent de poche pour la cantine.
Voilà, mais c'est drôle en fait, moi je rigole bien, donc je vous la conseille si vous voulez bien rigoler et puis vous détendre devant un teen, c'est très très teen, donc moi j'aime
bien.
Tu sais,
j'ai bouffé tout Teen Wolf à l'époque, donc je peux pas vraiment t'en vouloir pour Riverdale, c'est pareil mais avec des loups-garous, donc c'est peut-être pire, je sais pas. Écoutez, Watchmen et Riverdale, deux salles, deux ambiances. Vous pouvez regarder les deux et nous donner votre avis. Merci Alix pour ce nouvel épisode de Sorry Popcorn.
Merci Mimi.
C'était cool.
Oui, c'était trop
bien.
On
vous retrouve mercredi prochain avec un nouvel épisode cinéma. Oui. Et dans un mois pour un épisode série télé. Les plus assidus d'entre vous ont une petite idée de la série dont on parlera en novembre. Pour les autres, ce sera une surprise.
Moi, j'ai une idée.
Oui. Merci beaucoup d'écouter sur le Popcorn et sache que la meilleure façon d'aider un podcast à grandir, c'est déjà d'en parler autour de toi et de dire aux gens que c'est cool parce que le bouche à oreille, ça reste l'atout numéro 1 pour se faire connaître. Et l'autre façon, c'est que tu peux aller sur Apple Podcast, même si t'as pas d'outil Apple, tu peux juste aller sur applepodcast.com et chercher Sors le Popcorn, le lien est dans la description, et mettre 5 étoiles avec un petit avis, comme ça on sera bien référencé et un jour on sera dans les recos Apple Podcast et ce sera la gloire.
La gloire.
Et
qu'on me couvre d'or.
Allez, bisous, à la semaine pro.
Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.